une autre histoire.
Je mesure le poids de l'histoire, sa rigueur, sa grandeur.
Une autre histoire, une chronique proposée par Robert Martin.
Le 25 septembre 1932, voilà 91 ans, naît à Toronto Glenn Gould, pianiste, compositeur, écrivain, homme de radio et réalisateur. Sa mère lui enseigne les premiers rudiments pianistiques jusqu'à l'âge de 10 ans, puis il étudie ensuite avec Albert Guerrero au Conservatoire de Toronto. Dès l'âge de 12 ans, il obtient une médaille d'or dans cet établissement. Il travaille l'orgue avec Frédéric Sylvester et la composition avec Leo Smith. Le véritable début de sa carrière se situe en 1955, lorsqu'il effectue une tournée aux États-Unis. À New York, il joue les variations Goldberg de Jean-Sébastien Bach et signe aussitôt un contrat d'exclusivité avec les disques CBS. Il vient en Europe en 1957, il joue à la Philharmonique de Berlin avec Herbert von Karajan et effectue une importante tournée en URSS. Alors que sa renommée va croissant, il décide brusquement en 1964 d'abandonner le concert, de ne plus apparaître en public et de ne plus jouer qu'en studio pour le disque ou la télévision. Par contre, il collabore à de très nombreuses revues et continue de composer. Il est notamment l'auteur de la musique d'un film consacré à la destruction de Dresde pendant la dernière guerre mondiale. Pianiste de génie selon certains, vedette capricieuse, frisant l'instabilité pour les autres, Glenn Gould compte parmi les rares interprètes qui ont su toucher le grand public. Il a acquis une réputation internationale grâce à ses interprétations très originales, particulièrement celles des œuvres de Jean-Sébastien Bach. Son jeu, pratiquement dépourvu de legato, c'est-à-dire de liaison entre les notes successives, de sorte qu'il n'y ait pas de silence, presque sans utilisation de la pédale, au réglage millimétré de son piano fétiche, tendu à l'extrême pour gagner encore en rapidité, sont sa propre marque. Gould a particulièrement excellé dans l'interprétation des variations Goldberg à l'origine de sa renommée, dont il a su mettre en valeur la dynamique, la vivacité, la profondeur de l'articulation logique des thèmes et dont le toucher était si différent qu'il en était immédiatement reconnaissable entre tous. Glenn Gould était certainement un être en marge. Ce besoin d'isolement qui l'a conduit à quitter la scène reposait sur le refus de la concession symbolisée par le concert. Il comparait le concert à une arène sanglante où l'artiste et le public ne pouvaient avoir un contact véritable car chacun détruisait en partie l'approche artistique de l'autre. La musique appelait, d'après lui, à la contemplation. Il fallait créer une relation à un niveau supérieur entre l'artiste et la musique d'une part, la musique et l'auditeur d'autre part. La solitude seule peut engendrer une telle relation car elle instaure un contexte d'où les passions sont exclues. La transmission du message musical devait donc être scindée en deux étapes distinctes, la recréation et la diffusion. Enregistrer sera pour lui une création total. Il semble s'éloigner du texte original, alors qu'en fait, il cherche à trouver le timbre et la dynamique pianistique correspondant à la notation originale. Le répertoire de Glenn Gould sortait des sentiers battus. En dehors de Bach, de Beethoven et de Schoenberg, les grands noms de la musique l'intéressaient peu. Mozart était mort trop tard à ses yeux, et Stravinsky faisait preuve de pauvreté rythmique. Par contre, Orlando Gibbon était le génie absolu et William Byrd lui disputait ce privilège. Pour ces deux musiciens, tout comme Bach, la couleur instrumentale comptait peu et s'effacer derrière le sens de la construction. Alors, génie authentique, original ou fou excentrique ? Gengoud aurait été sujet d'une forme d'autisme dénommée le syndrome d'Asperger. Plusieurs points étayeraient cette thèse. Sa disproportion des sens, hypersensibilité de l'ouïe, de la vue et du toucher, doublée d'une insensibilité du goût et de l'odorat. Ses routines vestimentaires, alimentaires et ses répétitions de codes, de rituels tout au long de sa vie. Il regardait 40 fois le même film ou écoutait une suite de musique pendant des mois. Par exemple, il trempait toujours ses bras dans l'eau très chaude avant un concert et refusait l'idée même de se séparer de sa chaise pliante sciée. Il mangeait le même repas, œufs brouillés, pain grillé, salade et biscuits, chaque jour. Son comportement social aussi, très difficile, et son refus de l'interaction humaine au point de préférer la compagnie des animaux. Son attitude physique et ses répétitions de gestes typiques de ce comportement, et puis son manque de courtoisie doublé d'une incroyable faculté mémorielle. Le mystère que Glenn Gould a fait régner autour de lui empêche toute vision objective. Ses disques irritent ou enthousiasment. L'homme, tel qu'on a pu le voir à la télévision, semblait sincère à certains, trop imbu de lui-même à d'autres, et son anticonformisme gênait tous ceux pour qui les valeurs établies sont inviolables. L'œuvre de Glenn Gould, en matière de documentaire radiophonique, est moins connue que sa discographie. Pourtant, son sens aigu de l'accompagnement musical, des sons captés et des voix des personnes interviewées ont fait de ce travail radiophonique une œuvre plébiscitée par la critique. Considéré comme l'un des plus grands pianistes du XXe siècle, Glenn Gould meurt en 1982 à Toronto des suites d'un accident vasculaire cérébral. Les premières mesures des variations Goldberg sont gravées sur sa pierre tombale. Le génie de Glenn Gould voyage aux confins de l'espace. La sonde Voyager contient une œuvre de Jean-Sébastien Bach interprétée par Glenn Gould. Mais c'est une autre histoire.
Une autre histoire ? Notre histoire ?